Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
Louis. Pensez à la personne que vous aimez, avec qui vous avez été en couple ou avec qui vous l'êtes aujourd'hui. Quelle est votre plus grande différence et celle qui vous pose le plus de difficultés? Cette personne a-t-elle voté Macron quand vous avez essayé, et lamentablement échoué, à faire élire Hamon? Est-elle fan de science-fiction quand vous aimez les comédies romantiques? Aime-t-elle manger au lit à 2h du matin quand les miettes de pizza retrouvées dans le pli d'un drap vous hérissent et que vous aimez éteindre la lumière avant même que s'allument dehors les lampadaires? C'est quoi une différence compliquée dans un couple? Est-ce que ça ne se loge pas bien plus dans les toutes petites choses que dans ce qui pourrait, au départ, sembler immense? L'épisode d'aujourd'hui parle de liens, de convictions et de recherche de tolérance. C'est un épisode à quatre mains de Zahra Mahi et Zulika Tahar. Je suis Charlotte Pudlewski.
Je suis Maureen Wilson.
Bienvenue dans Passage.
Un jour, je suis amenée à dire à mon père que j'entends ce qu'il me dit, mais que ça ne m'empêche pas de penser que un jour, peut-être, je tomberai amoureuse et que si je tombe amoureuse d'un juif ou d'un chrétien, ce sera comme ça. Je ne lutterai pas contre.
Décembre 2014, je vis seul parce que je suis divorcé depuis 2 ans, mais c'est l'époque où je viens d'acheter mon appartement et donc c'est vraiment ce qui occupe beaucoup mon esprit et ma vie personnelle, les travaux, enfin tout ce qui est nécessaire pour acheter l'appartement, donc je ne suis pas dans l'idée de rencontrer quelqu'un particulièrement. Je travaille dans une direction juridique et ce jour-là, j'ai le placard à fourniture qui est en face de mon bureau et je sors dans le couloir et je vois ma collègue qui est responsable du département dans lequel Kautar fait son détachement avec une jeune femme. Donc elle est en train de choisir des fournitures pour elle. Elle me la présente, elle me dit « Je te présente Kautar ». Alors il faut bien prononcer son prénom, ça se prononce « Kautar ».
Quelques jours après avoir rencontré Guillaume, je le recroise dans les couloirs de l'entreprise. Je le trouve tout de suite très souriant, très sympathique et accessible parce que, bien qu'il soit responsable de secteur, il me parle de manière respectueuse, évidemment. Et puis, il prend le temps de me poser des questions sur moi, sur les raisons qui m'ont conduite à être détachée et de s'intéresser à moi, ce qui est plutôt rare à son niveau de responsabilité. Je passe 3 mois dans l'entreprise où travaille Guillaume. 3 mois, c'est à la fois court et long. D'autant que je travaille beaucoup, je m'implique beaucoup, toujours dans la perspective de plaire à mon secteur et à la direction juridique de manière générale et d'avoir des dossiers en perspective quand je retourne dans mon cabinet d'avocat et je noue des relations amicales, notamment avec mon détaché, mon co-détaché. Et Guillaume passe de temps en temps dans le bureau, même plus que de temps en temps, assez souvent, presque quotidiennement.
Kautar a la bonne idée d'apporter des friandises au bureau, et notamment des bonbons Haribo. Alors elle n'est pas au même étage que moi, donc je prends pour excuse de bien aimer les fraises Tagada, et donc je vais la voir assez souvent. Et je me rends compte que cette fille me plaît, mais me plaît vraiment. J'aime son regard, j'aime son sourire. Et au fur et à mesure de nos entretiens, ce qui me touche beaucoup, et c'est là qu'en fait, au-delà de l'attirance physique, le cœur commence à être touché aussi, c'est sa façon d'écouter, en fait, les gens. Et c'est une vraie écoute.
Au fur et à mesure de mes échanges avec Guillaume, je me rends compte que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un d'intelligent, très clairement, quelqu'un de cultivé. Je sais que c'est un bon juriste par ailleurs. La seule inquiétude que j'ai à ce moment-là, c'est de savoir si Guillaume partage mes sentiments ou à tout le moins une certaine attirance. La seule difficulté que je pressens en dehors de la connaissance même de ses sentiments, c'est simplement ses convictions politiques qui sont très importantes pour moi.
J'ai grandi dans le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer. Je suis fils unique. Mon père était catholique pratiquant. Ma mère, même si elle avait été élevée dans la religion catholique, les religions, c'est pas vraiment sa tasse de thé. Dans mon milieu, on ne connaît pas beaucoup de personnes qui ne soient pas catholiques ou de tradition chrétienne. J'ai toujours été dans des écoles privées catholiques. C'était un choix de mes parents, pour un choix à la fois éducatif et aussi pour mon père, hein, je pense, d'avoir un cadre religieux plus certain. Donc c'est plutôt les gens que j'ai fréquentés. Donc j'étais plutôt dans un milieu assez conservateur, même si mes parents n'étaient pas bourgeois, véritablement, c'était plutôt de classe moyenne. J'ai quand même évolué plutôt dans un milieu assez conservateur, avec des idées plutôt arrêtées. Et donc je n'avais pas vraiment d'idée de la diversité de la société telle qu'elle existe et telle que je la côtoie aujourd'hui. C'est plus tard, lorsque j'ai commencé à faire mes études à Paris, que je me suis un petit peu ouvert à cette diversité. Et ça a beaucoup changé ma vision du monde et des choses.
Je grandis dans une famille entre guillemets mixte, parce que mes parents sont respectivement issus du Maroc et de Tunisie. Ma famille est musulmane, pratiquante. Donc je grandis dans cet esprit. On est tous musulmans dans ma famille. On pratique tous. La plupart des personnes jeûnent pendant le mois de Ramadan. La plupart des personnes de ma famille ne boivent pas d'alcool. Pour mon père, il est très important, pour une femme ou pour un homme de confession musulmane, d'être avec un musulman. Pour lui, c'est un des piliers du couple et un des piliers de la famille. Donc, assez souvent, il me parle de l'importance plus tard pour moi de me marier avec quelqu'un de musulman. La couleur de peau, l'origine sociale ne l'intéresse pas, ou en tout cas, ça n'est pas une difficulté pour lui. Par contre, clairement, il n'est pas prêt à ce que j'épouse quelqu'un qui soit athée, agnostique, juif, chrétien, bouddhiste. Il faut que ce soit quelqu'un de musulman, qu'il le soit à l'origine ou qu'il se convertisse s'il ne l'est pas dès le départ.
Enfin, la veille de son dernier jour, elle fait un petit pot de départ. Moi, je décide d'y aller alors que j'ai eu un examen médical le jour même où j'ai eu sous anesthésie générale. Donc j'étais quand même un petit peu dans les vapes. Mais je dis non, c'est c'est quand même Kaoutar, quoi. C'est pas n'importe qui pour moi, je vais aller à son pot de départ. Donc je vais à son pot de départ, et le lendemain, je l'aide à transporter quelques affaires jusqu'au RER. Et là, au moment de la laisser partir dans le RER, je lui demande est-ce que ça te dirait de dîner avec moi dans 15 jours. Il y a un restaurant éphémère qui s'ouvre dans le 11e arrondissement et j'aimerais bien que tu dînes avec moi à cette occasion. C'est lors de ce dîner que nous sortons ensemble.
Au début, je me sens coupable d'avoir cette pensée selon laquelle peut-être un jour je me marierai avec un chrétien ou un juif. Pourquoi je me sens coupable ? Parce que tout le monde autour de moi, en tout cas tous les musulmans, me présentent la chose comme étant haram, étant interdite. Le Coran me prescrirait de me marier avec un homme musulman. Et c'est une chose que je crois pendant longtemps. Donc pendant longtemps, je pense que cette ouverture envers les autres religions monothéistes est quelque chose qui est proscrit par ma religion et je me sens donc coupable. Et cette culpabilité est nourrie au fil du temps, mais elle finit par disparaître parce que je me renseigne et je sais que les textes n'interdisent en réalité pas aux femmes musulmanes de se marier avec des hommes chrétiens ou juifs.
Au bout de 9 mois de relation à peu près, je lui ai proposé de venir s'installer chez moi.
Quand nous commençons à habiter ensemble, il m'attend systématiquement le soir, alors que je rentre déjà tard du cabinet. Il attend que je fasse mes prières rituelles, que je rattrape parce que je ne les fais pas en temps et en heure au cabinet. Et ensuite, nous mangeons ensemble. Donc, il est souvent 23h, minuit, voire davantage. Il s'habitue aussi assez rapidement au fait que je mange de la viande halal. Au départ, ça l'effraie un peu. Et finalement, il se rend compte que nous avons une boucherie halal de qualité juste à côté de chez nous. Donc, il s'y fait aussi. De plus en plus, il évite de manger du porc à la maison. Il se rend compte qu'il peut aussi en profiter au restaurant ou chez des amis. Quant à l'alcool, je ne lui impose rien, évidemment, comme sur le reste d'ailleurs, et il continue de boire de l'alcool indifféremment dans la famille, chez des amis. En revanche, il est très inquiet à un moment de notre relation qui arrive assez vite. C'est un Noël que nous devons passer dans sa famille, le premier Noël. Il me dit qu'il ne pourra jamais dire à sa famille que je mange halal et que donc je ne pourrai pas manger un certain nombre de mets qui sont sur la table. Et il ne se voit pas annoncer ça à sa famille, qui est assez traditionnelle de droite, en tout cas traditionnelle, et donc qui n'a pas nécessairement eu l'habitude de côtoyer beaucoup de juifs ou de musulmans, et donc d'avoir des contraintes alimentaires.
Je me dis, ça va être compliqué de leur dire que Kaoutar ne peut pas manger la même chose que nous, parce que voilà, le repas, c'est important de partager le repas, de manger ce qu'on vous donne, etc. J'ai toujours entendu ça. Je me dis, voilà, ils risquent de mal le prendre si je commence à leur dire que mon ami a des exigences alimentaires particulières et tout.
Et là, ça cristallise beaucoup de difficultés auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Parce que donc Guillaume ne veut pas monter au créneau sur ce point qui me paraît anecdotique. Je me dis que si j'étais végétarienne, ce serait très bien pris. Bon, il me trouverait peut-être un peu original, même s'il y en a de plus en plus. Mais ce qui me met en difficulté et ce que je n'apprécie pas, c'est la réaction de sa mère que, à son sens, si je ne fais pas cet effort-là, c'est sans doute parce que je ne suis pas assez amoureuse. Et donc là, ça me blesse à la fois que sa maman puisse dire ça, et puis ça me blesse que Guillaume m'en parle et que peut-être il puisse partager ça.
Je n'ose pas leur dire clairement, à tel point que je dis à Kaoutar, je dis, mais écoute, dans ce cas-là, est-ce que tu pourrais pas faire un effort ce jour-là et accepter de manger de la viande qui n'est pas halal ? Et là, elle me dit, non, je vais pas partir sur un faux semblant. Avec ta famille, sinon après le pli serait mal pris Et donc, ça, je ne le souhaite pas. Donc, voilà, ça me met dans des états. Et puis, je me dis, bon, bah, il n'y a pas, je vais quand même appeler mon oncle et essayer de lui expliquer.
Guillaume finit par avoir le courage incroyable d'appeler son parrain.
Je lui dis, bah, tu sais, je voudrais venir accompagner avec Kautar, avec tout ça. Il me dit, oui, pas de problème. Je lui dis, bah, voilà, je te préviens, elle est musulmane. Et de ce fait, elle mange que de la viande halal. Et là, j'entends mon oncle qui me dit benoîtement, ah ouais, en fait, c'est comme pour les juifs, c'est comme pour la viande cachère. Alors, il dit, mais du coup, il va peut-être falloir qu'on ait des vaisselles séparées, etc. Je lui dis, non, il n'y a pas besoin. Il me dit, c'est juste... Il dit, écoute, il n'y a pas de problème. Hein, s'il n'y a pas de viande halal, on lui fera un menu à part. On a du bon poisson à Boulogne, ça va aller. Il n'y a pas de souci.
J'ai l'habitude de ces fêtes-là. J'y suis très attachée d'ailleurs, et donc quand j'arrive dans la famille de Guillaume, en réalité ça n'est pas du tout une première pour moi. Je suis très bien accueillie, les choses se font naturellement, le parrain de Guillaume et sa femme, sa tante par alliance, sont très agréables, c'est le cas aussi de ses cousins et cousines, et me traitent comme n'importe quelle personne. Ils ont une attention délicate à mon égard, c'est que ils aménagent quelques plats, notamment l'entrée et le poisson pour le plat principal, pour que je puisse manger aussi en me faisant plaisir, alors que de leur côté, ils mangent du foie gras à l'entrée et de la viande au plat que je n'aurais pas pu consommer. Donc je suis vraiment agréablement surprise parce que Guillaume... lui appréhende beaucoup ce moment-là. Et donc les choses se passent bien, assez naturellement. Il y a beaucoup d'humour à table. Et je me sens déjà un petit peu intégrée. Pas encore partie de la famille, mais déjà un petit peu intégrée. Le week-end du 14 juillet 2016... Guillaume me fait une surprise, il m'invite dans le Vexin, dans un très bel hôtel, avec un cadre somptueux.
Et nous allons dans un restaurant qui domine la Seine entre Paris et Normandie.
Et nous passons une très bonne journée, voilà venu le temps d'aller au restaurant, un restaurant gastronomique qui se situe dans l'hôtel. Et comme d'habitude, avec Guillaume, nous sommes en retard, donc nous sommes prêts. Je m'apprête à mettre mes chaussures à talons, une fois n'est pas coutume, parce que je trouve ça éminemment inconfortable. Mais là, je me dis que je veux lui faire plaisir, être le plus élégante possible. Et Guillaume m'arrête, pour une raison qui m'échappe, au lieu de me presser pour aller au restaurant.
Voilà, le moment est venu pour moi de demander à Kautar d'être ma femme.
La question étant, Kautar, veux-tu être la femme de ma vie ? Je pense avoir en tête le sens de la question. N'en suis pas sûre parce que Guillaume est divorcé et je ne suis pas certaine qu'il souhaite se marier à nouveau. Donc je me demande s'il a en tête que nous vivions tous les deux, mais sans être mariés. Et donc je veux m'en assurer et je lui demande de préciser sa question.
Et là, je reconnais bien Kautar qui aime bien que les choses soient précises, en fait. Voilà, les mots ont un sens, elle est avocate, donc les mots ont un sens, les phrases ont un sens, donc il faut bien dire les choses. Mais fort heureusement, elle me dit oui. Et donc là, je suis très heureux, et nous mangeons excellemment bien, et nous sommes je suis sur mon petit nuage.
Il ne s'est pas passé beaucoup de temps entre le moment où il me fait sa demande et le moment où il invite sa mère. Son père et la femme de son père, sa belle-mère, parce que ses parents sont divorcés.
Ma maman, qui n'est pas du tout catholique, elle ne fréquente pas du tout les églises, a une relation assez distante, voire un peu négative vis-à-vis des religions et vis-à-vis de l'islam en particulier. C'est pas sa tasse de thé, les rites musulmans. Voilà, elle est aussi d'opinion assez conservatrice. Voilà, je sais ce qu'elle pense, je vais pas essayer de la changer, quoi que ce soit là-dessus. Du côté de mon père et de ma belle-mère, qui sont beaucoup plus catholiques, les choses se passent très très bien aussi, parce qu'ils sont plutôt tradition de catholique très tolérante, très, très ouverte. Donc de ce côté-là, les choses vont bien et la religion de Kautar est tout à fait acceptée. Ça donne l'occasion d'échanges justement assez fructueux entre nous. Donc ça se passe bien. Alors je connais déjà la maman de Kautar parce que voilà, j'ai eu l'occasion de la rencontrer et c'est à elle que je fais ma demande en mariage de manière un peu plus classique puisque je n'ai toujours pas connu ni croisé son papa qui de toute façon ne vit pas à Paris.
Nous sommes fiancés le 16 juillet 2016. Et donc, cela fait quelques mois que nous sommes fiancés quand je prends enfin mon courage à deux mains et que j'annonce à mon père que je suis avec Guillaume. Nous apprêtons à aller à Boulogne pour notre deuxième Noël dans sa famille. Et je décroche le téléphone, j'appelle mon père qui est en Tunisie, comme souvent depuis qu'il est à la retraite. Et je commence à lui dire que je suis dans une relation avec quelqu'un avec qui j'envisage de me marier. Et petit à petit, les détails sont présentés. Je n'en viens pas tout de suite à son prénom, mais à son âge, à ce qu'il fait dans la vie, à la manière dont nous nous sommes rencontrés. Et finalement, mon père m'interrompt et m'indique qu'il se doute qu'il est catholique. Et je lui dis « Oui, tu as raison. » Il me demande une deuxième chose, « Est-ce qu'il a les yeux bleus ?» Alors, la question me surprend, mais il se souvient en réalité d'une anecdote. Quand j'étais adolescente, je lui avais dit, semble-t-il, je ne m'en souviens absolument pas, que je me marierais avec quelqu'un d'origine française et qu'il aurait certainement les yeux bleus, parce que j'aimais bien les yeux clairs. Et ce jour-là, surprenamment, mon père réagit relativement bien. Il ne me dit pas qu'il est ravi de la situation, mais en tout cas, il me dit que c'est mon choix, que je suis quelqu'un de réfléchi et donc que je l'assume et qu'il me souhaite d'être heureuse. Quelques jours plus tard, nous sommes le 31 décembre, nous sommes chez Guillaume et mes deux meilleurs amis sont venus passer la soirée avec nous. Le téléphone sonne, mon téléphone mobile évidemment, parce qu'il ne sait pas que je suis chez Guillaume. Et c'est mon père qui me dit « Écoute, j'y ai pensé pendant plusieurs jours, j'ai consulté plusieurs personnes, dont des imams, et en fait, ce que tu fais, ça ne va pas. Tu es pratiquante, tu fais tes prières, tu es quelqu'un de raisonnable. » Mais tu t'apprêtes à vivre dans le péché toute ta vie. Et là, j'ai l'impression de recevoir un seau d'eau glacée sur le visage. Je n'ai même pas le temps de réagir. Il me dit « Je voulais juste que tu le saches. Bonne fin d'année. » Il raccroche. Je suis estomaquée parce que, après avoir eu la bonne surprise de voir qu'il pouvait réagir quand même relativement bien, finalement, on en revient à la situation à laquelle je m'attendais. Et je suis très déçue, je suis très peinée. Mais heureusement, Guillaume est là, Anne-Marie et Claire aussi. Et je me dis que c'est la vie, que c'est mon père, que je ne le changerai pas. Et nous passons pour autant une très très bonne soirée.
Alors Kautar me dit « Écoute, moi j'aimerais bien qu'on suive une préparation au mariage qui se fait dans le sein de l'Église catholique. Moi ça ne me dit rien, d'une part parce que je sais, ayant déjà été marié, que je ne vais pas pouvoir me marier à l'Église, je sais ce qu'ils vont me dire. Je crains de ne pas être bien accueilli en fait dans cet environnement. Voilà, la place des divorcés dans l'Église catholique, c'est tout un problème. »
Comme je souhaite qu'il y ait de la spiritualité et que je ne vois pas de cadre musulman, je propose à Guillaume de faire une préparation au mariage au sein de l'Église catholique. J'ai conscience qu'aujourd'hui en France, aucun imam à ma connaissance n'accepte de célébrer des mariages entre une femme musulmane et un homme chrétien ou juif. Le prêtre sur lequel je tombe m'accueille très sèchement et me dit « Mais vous n'y pensez pas, votre mariage est dans 6 mois, c'est bien trop tard, une préparation, ça dure au moins 1 an. » Et là, assez amusée, même si je suis un peu refroidie, je lui dis « Vous savez, nous avons 2 particularités dans notre couple et donc nous ne marierons pas à l'église. D'une part, je suis musulmane et d'autre part, mon conjoint est déjà marié et divorcé. Donc, nous n'aurons pas cette célébration. En revanche, je tiens à ce qu'il y ait cette préparation spirituelle. » Et là, il se détend. Il est beaucoup plus chaleureux. Il me dit « Écoutez, venez demain, on en parlera. » Et de fait, le lendemain, nous sommes à la réunion.
Nous allons voir le prêtre et il nous dit « Écoutez, je vais vous suivre à part. On va faire une préparation rien que pour vous. Vous allez venir au presbytère. » Et voilà, les choses se sont finalement très bien passées. Le prêtre était vraiment très, très intéressant. Il nous a vraiment beaucoup aidé à trouver les textes, les chants, à discuter un peu de la manière avec laquelle nous allions donner notre engagement l'un à l'autre. Ça nous a, en réalité, été très, très profitable à nous deux. Donc, encore, Kautar avait eu la bonne intuition de départ.
Nous nous marions le 23 septembre 2017.
J'arrive à la mairie, tout le monde est déjà là depuis un petit moment.
Donc la mariée arrive avant le marié, ce qui n'est pas très habituel. Et je suis très énervée parce que j'ai alerté Guillaume maintes et maintes fois sur la nécessité d'être au moins un quart d'heure à l'avance par rapport à la cérémonie à la mairie.
J'arrive à 2 heures pile, donc en retard.
Il y a beaucoup de monde à la mairie. Nous avons fait le choix d'inviter peu de gens par rapport à ceux qui nous connaissons. Après la cérémonie civile, nous nous dirigeons vers le lieu de réception que nous avons retenu, qui est en Seine-et-Marne. Et dans le parc très beau du lieu de réception, se tient la cérémonie œcuménique, une cérémonie que nous avons passé beaucoup de temps à préparer, qui est personnalisée, qui est à l'image de ce que nous sommes et de ce que nous voulions, et qui comprend des textes religieux chrétiens et musulmans et des textes laïcs. Côté catholique, le Notre Père et des cantiques. Et pour le côté musulman, les 99 noms d'Allah chantés et la Fatiha que nous réitérons après en avoir fait une en cercle très restreint chez ma mère. Et ça se termine par un chant « Evenu Shalom Alechem » qui est un clin d'œil à nos amis juifs et qui fait le lien entre les 3 religions monothéistes. J'espère que mon père sera présent. Ça n'est pas le cas, je suis extrêmement déçue et je suis même blessée, mais j'y suis préparée, donc ça m'aide à surmonter cette déception. Et surtout, j'ai tendance à me dire que je suis déjà assez stressée comme le sont la plupart des mariés et que sa présence m'aurait stressée davantage. Donc je me fais une raison et je vis la journée aussi pleinement que je le peux.
Le fait que le papa de Kautar ne soit pas présent au mariage, ça lui pèse, bien évidemment, parce que même si j'ai compris de nos discussions que sa relation a pu être parfois un petit peu compliquée avec son papa, comme toute jeune fille, elle aimerait que son père soit présent et que ça lui pèse quelque part. Moi, ça m'embête et ça me gêne pour elle.
Mon père ne m'appelle pas le jour du mariage et il ne m'appelle pas non plus dans les jours qui suivent. Je continue à faire l'effort de lui téléphoner de temps en temps pour maintenir un lien qui me semble un petit peu artificiel en l'occurrence, mais au moins les apparences sont là. Quand je lui parle, il évite de mentionner Guillaume et au contraire... Quand je lui dis que Guillaume lui passe le bonjour, il se tait et il passe à autre chose. Et finalement, bien des mois plus tard, nous sommes en août 2018, donc il s'est passé près d'un an.
Et nous sommes en vacances dans le sud de la France, chez des amis qui ont une maison à Bormes-les-Mimosas. Et Bormes-les-Mimosas, c'est tout près de Toulon. Comme nous sommes en vacances à Bormes, on décide d'aller passer quelque temps avec Fessal et les enfants. Et Fessal, donc le frère de Kautar, lui dit « Écoute, je te préviens, mais Papa vient de m'appeler, il va passer quelques jours chez nous, donc il sera là quand tu viendras. Et Cahoutin lui dit, bah oui, mais moi je suis avec Guillaume, et Fessa lui dit, non mais bien évidemment, hein, de toute façon, Guillaume fait partie de la famille, donc il vient avec toi, il n'y a pas de problème. Si ça lui pose une difficulté, je lui dirai de sortir de la maison. Son père ne voit pas d'un bon oeil le fait que sa fille soit mariée avec un non-musulman. Donc voilà, je crains que ceci ne crée un peu de tension. Et comme il a été dans cette logique de refus du mariage, de venir au mariage, voilà, j'avais peur aussi qu'il ait des paroles blessantes vis-à-vis de Kaoutar elle-même. Donc c'est tout ça que je crains un petit peu. Il a un grand sourire, il s'approche de moi, toujours avec un grand sourire, me serre la main, me dit « Guillaume, je voulais vous dire quelque chose. Félicitations pour le mariage !»
Je suis un peu interloquée parce que ce sont des félicitations qu'il ne m'a jamais faites à moi et que je trouve un peu tardives. 11 mois plus tard, ça m'énerve un peu, mais je le prends sur moi et je fais comme si les choses étaient idéales.
Nous discutons comme la première fois qu'on rencontre son beau-père. Finalement, on apprend à faire connaissance. Je lui pose des questions sur Bizerte, sa ville en Tunisie. Il m'explique l'histoire de Bizerte. On parle un petit peu de politique, de football. Cette première rencontre se passe très bien.
Je sais que je ne fais rien de mal. Et au contraire, je me dis que nous avons une richesse incroyable. Ma pratique s'en trouve renforcée, et surtout ma connaissance de l'islam, parce que Guillaume me pose beaucoup de questions, et donc je me documente et j'essaye de lui répondre aussi bien que lui me répond sur le christianisme à la lumière de tous ses enseignements, et notamment du catéchisme, et en plus de la pratique de son père qui est aussi significative. Contrairement à ce que m'a dit mon père et à ce qu'il continue de penser, je n'ai pas du tout l'impression et je n'ai jamais eu l'impression de vivre dans le péché en partageant ma vie avec Guillaume. Je m'épanouis dans cette relation avec Guillaume parce que nous nous aimons beaucoup et nous nous respectons.
La disparité de culte ne me pose pas de problème du tout, mais je me dis qu'avec Guillaume, si nous partageons notre vie et si nous avons la chance de construire une famille qui ne sera pas constituée que de nous deux, il nous faut réfléchir à un certain nombre de choses sur la vie quotidienne et surtout sur la manière dont nous pourrons élever nos enfants. Si nous serions conduits à baptiser nos enfants, si c'était un garçon, si nous serions amenés à le circoncire, est-ce qu'il mangerait du porc ?
Donc quand nous avons la joie d'apprendre que Kaoutar est enceinte, nous préparons une liste de prénoms pour des garçons et des filles, puisque nous ne souhaitons pas connaître le sexe de notre enfant. Et en ce qui concerne les listes de garçons, très rapidement, nous nous mettons d'accord sur un prénom, Ismaël. Et c'est d'ailleurs celui de notre enfant aujourd'hui, puisque c'est un petit garçon.
Les parents de Guillaume, comme mes parents, trouvent le prénom très joli quand ils le découvrent à la naissance. Mon père, je pense, est plutôt agréablement surpris, même s'il ne me dit pas ouvertement. En tout cas, je sais que très clairement, il est soulagé qu'il s'appelle Ismaël, qui est un prénom qui résonne dans la tradition musulmane.
Ismaël sera éduqué dans la connaissance de nos deux religions, de nos deux cultures, de nos deux fois respectives. Nous essaierons de lui donner la signification des différentes fêtes religieuses, mais dans la mesure où nous fêtons déjà à la fois l'Aïd, le petit Aïd, l'Aïd el-Fitr, l'Aïd el-Kébir, on continuera de le faire. Nous fêtons Pâques, nous fêtons Noël aussi, et nous continuerons de le faire. Nous essaierons de lui expliquer effectivement la signification de chacun de ces moments dans la liturgie ou dans dans nos fois respectives. Et oui, ce sera l'occasion de faire plusieurs fois la fête, d'avoir plusieurs repas de famille avec des traditions culinaires différentes. Et ça aussi, c'est bien, parce que comme ça, il aura des connaissances en termes de traditions culinaires assez variées très rapidement. Quand on est avec quelqu'un qu'on aime et avec qui on souhaite passer sa vie, on se retrouve vraiment soi-même. Et en tout cas, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est d'être avec Kaoutar vraiment moi-même. L'avoir pratiqué, ses prières, rituels, c'est Kaoutar aujourd'hui qui me pousse à aller à la messe, finalement, parce que voilà, le dimanche matin, je me dis que voilà, je n'aurais pas forcément le courage. Et elle me le pousse, parfois même sans me le dire. Et c'est elle aussi l'aiguillon, parce que je me rends compte que la foi, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'important pour elle, c'est aussi finalement pour moi. Et je le fais non pas pour essayer d'affirmer mon identité vis-à-vis d'elle, ça n'est pas du tout le cas, pour lui dire « regarde, moi aussi, j'ai une foi ». Non, c'est pas du tout ça, c'est parce que je redécouvre en moi-même le sens de la prière, en la voyant prier tous les jours. J'ai réussi à lui expliquer ce pourquoi je croyais, et ça m'a amené à redécouvrir ma foi. Et la réalité, c'est que aujourd'hui, nous vivons notre couple, c'est-à-dire comme tout autre couple. Nous avons cette différence religieuse, mais nous avons des différences de caractère, nous avons des différences de goût culinaire qui ne se limitent pas juste à la viande de porc que je mange et que Kaoutar ne mange pas. Les chocolats, par exemple, ben moi, je suis chocolat ganache et elle est chocolat praliné. Donc c'est une différence fondamentale, peut-être même beaucoup plus fondamentale que nos différences de foi, finalement, dans le quotidien. Et la différence religieuse, ben ça permet parfois de se poser des questions finalement plus en amont, parce que ça apparaît tout de suite, on se dit, ah oui, mais on n'a pas la même foi, on n'a pas la même pratique, il faut qu'on se pose des questions. Donc on se pose finalement peut-être plus de questions d'abord, ce qui n'est pas plus mal, parce que ça permet d'envisager les situations à l'avance. Nos vrais sujets de friction, nos vrais sujets de dispute n'ont rien à faire avec le religieux ou le culturel. Ce sont nos caractères différents, nos tempéraments différents qui parfois peuvent amener des frictions. Mais ça, je pense que c'est l'histoire de tous les couples.
Quand je pense à mon mariage avec Guillaume, je suis... souvent très émue, je me sens très, très chanceuse parce que j'ai la chance de vivre avec quelqu'un qui a énormément de valeur, quelqu'un qui est super. Je me dis que j'ai vraiment beaucoup de veine de l'avoir rencontré et je pense aussi à toutes ces personnes qui, dans un couple avec disparité de culte ou d'ailleurs pour d'autres raisons, vivent des difficultés. Et quand je pense à elles, je me dis qu'il faut vraiment qu'elles tiennent, qu'elles croient en leur amour et que si ces deux personnes s'aiment suffisamment et se respectent mutuellement, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré l'opposition de leur famille éventuellement, elles y parviendront et elles parviendront à vivre ce bonheur qui nous unit, Guillaume et moi.
Cet épisode de Passage a été tourné par Zara Maï et monté par Zulika Tahar, réalisé par Marine Kéméré, qui a aussi composé la musique. L'épisode a été mixé par Jean-Baptiste Aubonnet. Maud Benakcha était à l'édition et à la coordination. Maureen Wilson est responsable éditoriale et Marion Gérard responsable de production. Mélissa Bounois était à la direction des productions. Le générique de Passage a été composé par November Ultra. Je suis Charlotte Pudlowski et Passage est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous laisser des commentaires et des étoiles et en parler autour de vous. Et si vous souhaitez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club, vous y trouverez des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe et bien plus. louismedia.com/ Club. À très vite.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.